Saga CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.
J'ai été amenée à vivre cette expérience dans le contexte d'une direction d'institut de formation en soins infirmiers. J'ai pris ce poste avec beaucoup d'enthousiasme et plutôt confiant. La direction d'un institut répondait à mes aspirations. De plus, je revenais dans un établissement auquel j'étais attachée. J'y avais réalisé la totalité de ma carrière, mis à part les 5 dernières années. Je n'avais jamais été directeur d'institut. J'appréhendais très partiellement les aspects techniques de la formation infirmière réformée en 2009. Toutefois, le secteur de la formation m'était familier puisque 15 ans auparavant, j'avais été cadre formateur dans cet établissement, puis responsable de la formation continue. Cet institut était le plus petit de la région, 120 étudiants pour une équipe composée de 7 cadres formateurs, une documentaliste, 2 agents administratifs. Il est par ailleurs situé dans une métropole où se côtoient plusieurs IFSI. Le conseil régional a d'ailleurs exprimé officiellement le souhait de voir les instituts de ce même territoire se rapprocher. C'est sans doute pour cette raison que mon agrément de directeur n'avait été obtenu que de manière tacite, ce qui n'est évidemment pas le cas d'habitude. Enfin, la direction de cet IFSI avait vu se succéder 4 directeurs en 6 ans, avec des périodes d'intérim assurées par le coordonnateur général des soins de l'établissement support, qui déléguait la responsabilité du fonctionnement quotidien à 2 cadres formateurs. Ces 2 cadres, très expérimentés, ont au fil de ces périodes d'intérim encore renforcé leur expertise, ce qui les a confortés dans leur perception d'être incontournables en matière décisionnelle. À mon arrivée, toutefois, j'ai perçu de la part de l'équipe une demande de leadership, mais paradoxalement, chacune de mes propositions était quasi systématiquement contredite. L'expertise de ces 2 cadres qui avaient mis en œuvre la réforme de 2009 leur donnait une légitimité qui paraissait incontestable et leur avis était toujours in fine celui qu'il fallait retenir. Au-delà de ces débats qui portaient sur des enjeux pédagogiques, je me suis aussi heurtée à une équipe totalement opposée à toute évolution de l'organisation. L'idée d'un rapprochement avec les autres instituts du département était inimaginable. Ouvrir une autre rentrée en février afin d'augmenter l'effectif des étudiants, ce qui aurait pu constituer une opportunité de justifier de la pérennité de la structure, était inenvisageable. En quelques mois, la situation s'est tendue. La confiance réciproque a disparu. Mes relations avec l'ensemble de l'équipe se sont dégradées. Je faisais même l'objet de jugements de valeur. Et malgré mon désir de réagir et de faire évoluer la situation autrement, je m'en suis sentie incapable. Très atteint, je me suis isolée. Je n'ai cherché le soutien ni de mes collègues, ni du chef d'établissement. En maintenant le couvercle sur la marmite, j'entretenais l'illusion d'un fonctionnement normalisé. C'est d'autant plus facile que cette situation n'impactait pas le quotidien des étudiants. C'est finalement l'équipe de formateurs qui a demandé une médiation au chef d'établissement. Le directeur a fait alors appel au conseiller pédagogique régional, lequel est venu auditer la situation. Ce dernier a bien entendu constaté notre dysfonctionnement. Il a conclu son audit en soulignant que mes difficultés venaient probablement de mon antériorité dans l'établissement. Selon lui, j'avais considéré à tort cette antériorité comme facilitante. Il m'a proposé un accompagnement pendant 4 mois pour tenter de renouer un dialogue constructif avec l'équipe. Malheureusement, la confiance trop altérée n'a pu être restaurée. J'ai terminé l'année de formation et me suis mise en recherche d'une autre affectation. Ce changement devenait pour moi indispensable, tant je me sentais désormais inutile. Le soutien de mon chef d'établissement, grâce auquel je ne me suis jamais sentie mise à l'écart, m'a permis d'envisager mon avenir professionnel de façon plus optimiste. Cette expérience individuelle m'a amenée à éprouver ma vulnérabilité, à la fois physique et psychologique. J'ai accumulé les insomnies et la fatigue. Je me suis sentie découragée et démotivée. J'étais profondément déçue. J'avais idéalisé le retour dans cette institution où j'avais acquis une estime professionnelle. Bien que n'ayant jamais rencontré de difficultés au cours de ma carrière, je me suis sentie remise en cause au point de songer à changer de métier. J'ai rapidement pris conscience qu'un changement de poste était préférable et pouvait me permettre de me reconstruire professionnellement et personnellement. C'est ce que j'ai fini par réaliser. Pour autant, cette déception a laissé des traces. Aujourd'hui, vous livrez ce témoignage, mais possible, mais dire que ce serait avec légèreté, non. Avec le recul, je pense que les difficultés s'expliquent par une combinaison de facteurs individuels, institutionnels et politiques. Mon antériorité dans la structure a sans doute joué. Je n'ai pas adopté la posture d'autorité attendue. Cependant, le directeur des soins qui m'a précédé, tout comme celui qui m'a succédé, ne sont pas parvenus non plus à résoudre le problème de leadership dans cet institut. Sur les conseils du 5A CFDT, j'ai contacté l'unité mobilité développement professionnel du CNG. J'ai bénéficié de l'accompagnement d'un coach grâce auquel j'ai pu identifier les réalisations marquantes de ma carrière, celles qui donnent une véritable légitimité et qui vous rappellent que vous possédez des ressources et un potentiel. Grâce à ce dispositif neutre et bienveillant, grâce aussi à ceux qui ne m'ont pas lâché, mon ancien chef d'établissement et d'autres collègues, mon entourage familial, je me suis à nouveau engagée dans une expérience intéressante qui m'a permis de me reconstruire.
Ce témoignage, rapporté par le permanent qui a accompagné la situation, est le récit d'une expérience de violence de la part d'un collaborateur adjoint de direction. C'est suite à l'accès de colère de son plus proche collaborateur que j'ai été amenée à accompagner une jeune collègue, directrice M. M avait pris ce poste il y a 2 ans, séduite par une structure proche de ses attaches familiales, aux équilibres financiers sains et au climat social plutôt correct. Lors de sa visite de l'établissement, elle avait rencontré un personnage qui occupait une position centrale dans la structure, un attaché d'administration positionné comme adjoint de direction, Monsieur A. Il assurait alors seul la continuité de l'administration et avait donc une connaissance précieuse du fonctionnement de l'établissement. Après une année d'exercice, la première évaluation annuelle marqua un tournant dans leur relation, se souvient M. Les incompréhensions se multiplièrent alors entre elle et Monsieur A. Elle entreprendra sans succès de repositionner son collaborateur dans une ligne hiérarchique, en clarifiant la fiche de poste et en détaillant ses attentes auprès de lui. Un repositionnement hiérarchique rendu de plus en plus indispensable, tant l'adjoint de direction semble rechercher les limites avec sa supérieure hiérarchique jusqu'au dérapage de trop, au printemps 2017, où, en fin de journée, M. A agresse verbalement M. Aux alentours de 18h, alors qu'elle est dans son bureau, elle entend que son collaborateur est à proximité du photocopieur et sort pour lui demander s'il pouvait répondre à un mail au sujet d'une question professionnelle, anodine mais urgente, puisqu'on attendait d'elle une réponse rapide. Suite à cette demande banale, la colère de M. A explose. Sidérée par cette réaction, elle rebrousse chemin. Il la suit alors jusqu'à l'entrée de son bureau, en s'adressant à elle sur un ton agressif, en haussant la voix, en la pointant du doigt et en lui répétant « Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux », décrit-elle. Monsieur A refuse alors de baisser le ton et se met à tenir des propos confus et vindicatifs. Refusant de quitter le bureau de M, il se glisse dans l'entrebâillement de la porte en continuant de crier, le poing levé cette fois et en redoublant de véhémence. C'est un agent administratif, témoin de la scène, qui mettra fin à la confrontation en s'interposant. Le lendemain, Monsieur A reprendra son poste comme si de rien n'était. M l'entendra, dit-elle, évoquer, avec aplomb dans les couloirs de l'EHPAD, ses exploits de la veille. Il se vante d'avoir tenu tête à la directrice. Alors chez M, la stupeur cède la place à la crainte. Jusqu'où peut-il aller? Qu'est-ce qui peut justifier chez lui un tel sentiment d'impunité? Nous apprendrons par la suite qu'il n'imaginait pas une seconde qu'une action disciplinaire pourrait être initiée contre lui par sa directrice. M me contacte 24 heures après les faits et nous ne conclurons nos échanges qu'après la mise en œuvre de la suspension de l'agent, 48 heures après les faits. Une suspension rendue d'autant plus complexe et délicate que M. A dispose d'un accès intégral à l'établissement, toutes les clés, mais aussi d'un accès privilégié aux serveurs informatiques, y compris à distance. Dernière démonstration de force que la collègue devra surmonter. Avant de quitter l'établissement, alors qu'il est déjà suspendu, M. A prend à témoin de sa situation par mail les membres du conseil d'administration, de l'ARS, du conseil de vie sociale et du CTE. M. A ne tentera jamais de s'expliquer de son comportement auprès de la directrice et sera blanchi par le conseil de discipline plusieurs semaines après. Il réfutera en bloc, se positionnant en victime d'un abus de droit. Il exprimera néanmoins dans sa défense en arrière-plan une certaine frustration professionnelle. Après avoir fait l'intérim, après tant de dévouement, il supportait sans doute mal de devoir rendre des comptes à une jeune directrice. Pour ce qui concerne l'impact psychologique de ces événements, voici mes observations. Il m'a semblé reconnaître différentes étapes. En premier lieu, un état de choc durant lequel un point de vue extérieur a été nécessaire pour aider la collègue à intégrer la gravité des faits et lui donner la confiance nécessaire à l'action. Puis très rapidement, ses interrogations ont été les suivantes. Qu'est-il arrivé à cet agent? Que se passe-t-il dans sa vie personnelle? Ai-je raté quelque chose? témoignant de son sentiment de culpabilité. Puis, dans un troisième temps, a émergé une inquiétude, celle d'avoir laissé échapper une situation professionnelle dont elle percevait depuis un moment que l'issue serait un rapport de force. Un rapport de force qu'elle ne souhaitait finalement pas engager. Sur les conseils des collègues, qu'elle a eu le réflexe de solliciter, elle mettra en œuvre un dépôt de plainte, une procédure disciplinaire et une suspension. Et elle profitera du temps de l'enquête administrative pour remettre de l'ordre dans l'administration de l'établissement, des marchés, contrats, avancements, éléments variables de paye fantaisistes, mise en stage, courrier externe aux autorités signés sans délégation. La collègue directrice admettra plus tard n'avoir été rassurée qu'après le départ physique de M. A de l'établissement et avoir déposé plainte contre lui. Elle engagera aussi à titre personnel une mobilité vers une autre structure qui s'est concrétisée en même temps que la résolution de cette affaire. Une situation qui aura le mérite avant son départ de laisser une trace dans le dossier de l'auteur, mais également de marquer l'établissement qui est depuis lors divisé en deux camps.
Je commence. Je précise que, évidemment, je réagis avec ma propre subjectivité et que dans ma trajectoire de manager, il m'est arrivé, je dirais presque comme à tout le monde dorénavant, j'espère que ça va changer, des épisodes de ce type-là. Donc c'est aussi en écho à cette expérience que je peux prendre une position. Simplement, je relève simplement deux points, deux citations. Donc j'ai relevé la phrase « J'entretenais l'illusion d'un fonctionnement normalisé ». Moi je comprends ça comme « on ne veut pas voir ». Quoi. Cette illusion, c'est on l'entretient activement et donc c'est une forme de déni. Alors pourquoi cette tentation, cette illusion entretenue activement? Il me semble qu'il y a un élément de sidération. On ne veut pas y croire, quoi. Ça n'est pas possible. C'est vraiment un événement qui tranche avec ce qui a précédé. Et donc, dans un premier temps, comme dans des situations traumatisantes, on est sidéré. Je pense qu'il y a aussi ce qu'elle dit par la suite, je me suis senti incapable de réagir et de faire évoluer cette situation. Et qu'on pourrait dire peut-être qu'il y a un lien entre l'analyse qu'on fait d'une situation et les ressources qu'on sent qu'on aura ou pas pour passer à l'action que ça appelle. Et que ça marche dans les deux sens. Et que peut-être quand on ne se sent pas les ressources d'agir, on va décréter qu'il ne se passe rien. Pourquoi agir puisqu'il n'y a pas d'événement? Rien n'appelle mon intervention. Et donc il me semble que donc, l'impuissance ou le sentiment d'impuissance suscite le déni de la situation et la justification de ne rien faire. On est en règle avec sa conscience. Je ne suis pas attendu, je ne m'attends pas à intervenir là-dedans. Et puis troisièmement, il me semble qu'il y a aussi forcément, progressivement il faudra quand même y arriver, que ce qui se profile à l'horizon et dont on se préserve, c'est l'idée qu'on va entrer dans une période qui n'est pas rigolote. Et donc, dont la durée n'est pas déterminable a priori. Donc, c'est une frustration dans laquelle on assume de s'engager, il faut le temps de s'y préparer. Et à mon avis, c'est aussi non seulement une frustration, mais c'est aussi l'impression qu'on va entrer dans une période sale. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la violence, il va y avoir des choses. On va peut-être se découvrir sous un jour qu'on n'aimerait pas voir. Et donc, il en va aussi d'une estime de soi. Alors, à mon avis, pour faire vite, je dirais, à mon avis, dans ces cas-là, que faire ? Prendre autour de soi des avis fiables. Sortir de cette espèce de face-à-face avec soi-même dans le miroir et demander conseil. L'idée, ce serait que dans tous les cas de figure, espérons que tout salarié ait autour de lui des collègues de confiance. On verra qu'après, ils ont tendance à se raréfier, une fois que les hostilités ont été ouvertes. Mais au moins, il faut identifier une, deux, trois personnes sur lesquelles je peux vraiment compter pour m'en ouvrir. Et en tout cas, des gens qui savent interpréter, décrypter les signaux et voir quel est l'enjeu en la circonstance. Ensuite, un dernier point sur ce premier cas, c'est juste une surprise, l'agrément qui a été obtenu de manière tacite. Moi, j'avoue que personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, juridiquement parlant, un agrément tacite. Bon. Et donc, je me dis simplement, je pointe le truc, c'est il me semble qu'il y a une responsabilité évidente de l'institution en tant que telle à organiser un cadre qui soit juste, non seulement du point de vue de la justice juridique, mais il y a aussi de la justice éthique. Et que, qu'est-ce que c'est que cette institution qui se lave les mains, qui laisse faire sans dire, tout en faisant quand même mais par la périphérie. Donc, je trouve que là, il y a un truc qui n'est pas carré d'emblée, quoi. Voilà. Peut-être que je m'arrête sur le premier cas.
Vous avez envie de réagir ? Bien sûr. Il y a plein de choses à dire. Je vais rester donc centré sur le premier témoignage. Alors, c'est très intéressant comme table ronde parce que quand on a la chance de travailler avec des professionnels qui ont un autre point de vue, d'un coup, ça nous emmène dans une direction. Moi, je vais plutôt rester, même si j'entends la question du pouvoir en fin de compte. Moi, ce que j'entends dans ces récits, c'est la question de l'épreuve. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne va éprouver le réel. Elle va se cogner contre le réel. Et ce que nous dit très bien quelqu'un comme Christophe Dejour, il n'est pas le seul à le dire, mais on va rencontrer l'échec. Et ça ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Elle le dit très bien au début. J'avais imaginé, je m'inscrivais dans cette histoire, et d'un coup, boum, ça ne marche pas comme prévu. Et là, d'un coup, ça nous met à l'épreuve. Il y a une tension. Il y a deux destins. Soit je vais y arriver, et là je vais prendre du plaisir, ou soit c'est l'échec, c'est la souffrance. Et le témoignage numéro un, elle va rencontrer ce sentiment d'échec. Pour prendre un peu de recul, moi, ce que je vous propose, c'est d'entendre ce cas aussi sur une thématique. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle est face à une équipe qui lui fait quand même une demande. Sa demande, c'est « il nous faut un leader ». Alors, ce qui m'a surpris, c'est déjà, si on questionne un peu le mot « leader » dans une institution publique, il y a une rhétorique managériale qui s'inscrit. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de chef ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de N plus 1 ? Pourquoi on ne parle pas de supérieur ? Je ne sais pas, je m'interroge. Et derrière, d'un coup, je vous fais une proposition, c'est le mettre du côté de l'autorité. C'est-à-dire que bien dissocier la question du pouvoir et de l'autorité. Et il me semble que là, il y avait une confusion. Et la confusion, alors, je ne porte évidemment pas de jugement, hein, c'est toujours compliqué, c'est... Effectivement, je suis d'accord sur le cadrage au départ. Où est l'institution pour soutenir cette personne sur ses nouvelles responsabilités ? Comment elle a été accueillie ? Effectivement, d'un point de vue sociologique, on voit bien que les rituels aujourd'hui, malheureusement, du travail, c'est d'être mis à l'épreuve aussi sur ces questions-là. C'est pour ça que ça nous parle à tous, d'une manière ou d'une autre. Mais si je reste centré sur cette question de l'autorité, du coup, on peut le voir où se place l'autorité dans l'organisation. Et donc, du coup, il me semble que l'autorité, on est plutôt sur une position verticale. La question de la coopération verticale. La délibération, le débat qui a été proposé, bien sûr, mais là, on est sur une autre position. On est sur une position horizontale de coopération. Et là, il me semble qu'il y a une confusion sur en quoi, à un moment, j'entends l'équipe qui me demande d'être un leader, qui demande implicitement « donne-nous légitimité par rapport à notre expertise, on était là avant toi, et la personne en face qui se dit « ouais, mais moi, il faut que j'incarne cette autorité, avec un corps, et est-ce que j'en suis capable ? Comment je prends ma légitimité ?» Souvent, on se pose la question. Il me semble, moi, je l'ai appris au fil des interventions, mon expérience aussi de management dans d'autres secteurs, je ne vais pas développer là-dessus, ce n'est pas le propos, mais c'est un moment, ça se prend. Si on attend que c'est l'équipe qui vous donne la légitimité, on peut l'attendre des années, beaucoup d'années. Non, une fois qu'on l'a, on l'apprend, et à partir de là, il faut se dépatouiller. Donc je resterai juste sur cette thématique, en fin de compte, d'autorité, délibération, coopération verticale, horizontale. Et effectivement, ça met en tension. Mais quand on commence à avoir ça en tête, on peut avoir une première grille quand on va commencer à accueillir une équipe sur une prise de poste. Parce que là, c'était ça, me semble-t-il, une des thématiques, c'est comment je prends mon poste avec des anciens qui ont déjà une expertise pour pouvoir continuer à se dégager et faire avancer les choses.
Alors effectivement, la position de l'avocat est très très différente et je vais essayer de me tenir juste à cette position parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une opinion beaucoup plus élargie que le droit du fait de la spécificité de ce type de contentieux. Je vais tenter de mettre les deux témoignages en parallèle en faisant des conclusions un peu générales, parce qu'évidemment, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour avoir une appréciation objective du dossier, mais ces deux situations sont à peu près similaires dans leur point de départ et ne se concluent pas de la même manière. Dans une des situations, on sera davantage effectivement sur la définition juridique de harcèlement moral. Dans l'autre, ce sera beaucoup plus difficile à qualifier. Harcèlement moral, je dirais, pour le deuxième témoignage et moins pour le premier. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, deux choses. Un, le déni et la sidération. Il faut savoir que le déni est une des manifestations cliniques, j'allais dire, des victimes de harcèlement moral. C'est qu'il y a un phénomène d'abord de déni, puis de culpabilisation, qui fait que le principe du harcèlement moral, c'est vraiment se retourner l'arme contre soi. Et ensuite, sur, je développerai plus après, hein, là je rebondis juste sur les témoignages, sur le principe ensuite d'agrément tacite. Alors, pour répondre, tacite, c'est une vaste notion en droit public, puisqu'il y a les décisions tacites, et le tacite signifie le silence absolu du droit. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des situations où l'administration, au sens global, n'apportera pas de réponse à l'agent en souffrance, et ce caractère tacite constitue souvent le second trauma en fait des agents qui, un, subissent les faits et deux, résonnent l'écho du vide face à leur situation. Et ça peut être très très grave. Je fais une parenthèse tout à l'heure, j'ai pas précisé, mais malheureusement, je me suis spécialisée sur le suicide au travail et c'est terrible à dire que maintenant, surtout quand je fais des interventions à l'étranger, je dis, bah, moi dans mon pays, je travaille sur la qualification des suicides au travail. Donc ces seconds traumas, en fait, les réponses attendues sont extrêmement importantes. Même si elles sont maladroites, c'est un peu comme dans l'éducation des enfants, même si on fait mal, même si on n'y arrive pas, il ne faut pas laisser le silence, les victimes dans le silence, c'est très important. Ensuite, sur donc, la mise en parallèle de ces deux situations, donc, le travail de l'avocat, si vous voulez, c'est qualifier la faute ou l'infraction en fonction de la procédure pénale ou administrative dans laquelle on est. Dans ces situations, il y a deux choses, et c'est un petit peu les deux types, j'allais dire, de harcèlement, dont un est qualifié en droit, l'autre n'existe pas en droit. Il y a d'une part la partie contextuelle, c'est-à-dire qu'on est dans des situations où il y a des directeurs, on va généraliser le terme, qui sont en place, qui ne sont pas dans la position prévue par le poste, qui sont en intérim ou qui sont en faisant fonction et qui prennent le pouvoir, entre guillemets, dans l'institution, pas au sens politique, au sens fonctionnel évidemment, et lorsque le titulaire du statut arrive pour prendre ce poste, bien évidemment l'autorité a déjà été instaurée. Et donc il y a une vraie distinction entre l'autorité statutaire et l'autorité, j'allais dire, morale au sein des services. Et comme dans une entreprise, on reconnaît son chef à un certain nombre de qualités et pas forcément à son statut. Et ça, c'est toute la difficulté de la fonction publique, on n'a pas toujours le choix des gens avec qui on travaille et on compose avec. Et dans ces situations très particulières, notamment le premier témoignage où on voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité managériale à la direction, évidemment on crée une organisation extrêmement dysfonctionnante. Donc c'est très difficile pour la personne qui arrive de récupérer un service qui fonctionne mal. Donc on met déjà la personne en situation d'échec. Et la différence entre la première situation et la seconde, c'est que dans la seconde situation, il y a tout un autre tas de paramètres qui entrent en compte, dont j'ai l'intuition, mais pas assez d'éléments, mais pour illustrer. En droit anglo-saxon, par exemple, le harcèlement moral implique forcément dans sa définition juridique une notion de discrimination, c'est-à-dire qu'on vous harcèle pour un de vos traits de personnalité. Donc ça va être le genre, homme ou femme, l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale, etc., dans tout ce qui décrit les discriminations. Et ils ont un terme beaucoup plus vaste, qu'on appelle le bullying, pour le harcèlement au sens juridique français, qui est l'intimidation. Là où ça dérape, entre guillemets, c'est que finalement, on passe d'un conflit contextuel à un conflit interpersonnel. C'est-à-dire qu'il y a deux profils chez les harceleurs. Il va y avoir les pervers et les agresseurs. Je pense qu'on est plutôt dans le profil agresseur dans le second. Il n'y a pas forcément d'intention de démolir la personne. Il y a simplement un contexte qui vous rend agressif parce que vous n'êtes plus reconnu dans votre position. Et ce qui est très triste dans ce témoignage, c'est quand à la fin, on dit « l'établissement est très marqué, il reste deux camps ». Mais c'est affreux parce que l'établissement, il est marqué, j'allais dire, pour toujours. Et il faut absolument rétablir cet équilibre-là. Et ça passe beaucoup, beaucoup par le dialogue et le collectif, plus que le contentieux, je pense.